culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Chers amis du bonheur, c'est Causer Kilti qui débarque chez vous. Causer Kilti pour célébrer la vie. Causer Kilti pour vous donner la meilleure photographie sonore de la vitalité culturelle d'Haïti. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, écoutez, je ne me fâcherai pas. James Guillou, il assure la réalisation de votre magazine et nous sommes au top de notre énergie. Nous allons aujourd'hui vous donner un visa pour circuler à l'interne en Haïti. Nous allons vous conduire, mesdames et messieurs, au Cap Haïtien. Le Cap Haïtien, deuxième ville d'Haïti, ville à forte importance patrimoniale et historique. Ce livre a reçu l'une des plus belles déclarations d'amour qu'on puisse faire à une ville de la part de l'ingénieur Pérard. Cap Haïtien, 350 ans d'histoire, le livre est disponible un peu partout maintenant en Haïti. Ingénieur Pérard, bienvenue à Causer Kilti. Bienvenue sur RFI.
Merci D'Angelo de m'accueillir à votre émission. C'est vraiment un plaisir pour moi d'y participer. Merci beaucoup.
Ingénieur Pérard, j'ai envie de dire que personne ne peut être plus capois que vous. Hein, ou pour exagérer dans la formule, plus capois que vous, on meurt. Je viens de le dire là un peu à l'entrée de l'émission. Vous venez de faire un livre sur les 350 ans du Cap Haïtien. Dites-nous, ingénieur Pérard, d'où vous est venue cette nécessité de déclarer le Cap Haïtien dans un livre?
L'idée m'est venue pendant que s'approchait la commémoration des 350 ans de fondation de la ville. J'ai senti qu'il fallait faire un livre pour matérialiser tout l'amour que je porte pour la ville où j'ai vécu depuis ma tendre jeunesse.
Ingénieur Pérard, et il y a eu beaucoup de travaux qui sont faits sur le Cap Haïtien. Il y a une parole publique sur le Cap Haïtien, sur son histoire, et c'est connu. Mais j'ai envie de vous dire, ingénieur Pérard, et qu'est-ce que votre livre dit du Cap Haïtien qui, jusque-là, à votre avis, n'a pas encore été dit?
Jusqu'à ce jour, rien n'a été dit sur le théâtre capois. Rien n'a été dit sur la cuisine capoise. Rien n'a été dit de manière spécifique sur la peinture capoise. Donc pratiquement, la culture capoise n'est pas bien connue et il fallait qu'il y ait un papier qui informe sur les spécificités de la culture capoise.
La ville s'appelle Cap Haïtien et dans ce livre qui a pour titre Le Cap Haïtien, 350 ans d'histoire 1670-2020, et vous dites pourquoi le Cap Haïtien s'appelle Cap Haïtien et vous retracez carrément l'histoire du nom de la ville. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet aux auditeurs, aux auditrices de RFI?
À l'époque de la découverte par Christophe Colomb, les Espagnols avaient dénommé le Cacabo Santo. Maintenant, lorsque les Français venant de Port-de-Paix se sont établis au Cap Haïtien, ils ont appelé la ville Cap Français. Après l'indépendance, les généraux haïtiens ont pensé qu'il était tout à fait inapproprié de continuer à appeler la ville Cap Français. Ils ont repris le nom de Cap Haïtien. Sous le gouvernement de Henri Christophe, Christophe a jugé bon d'appeler la ville Cap Henri. Et maintenant, après la mort de Christophe, la ville est redevenue Cap Haïtien.
Vous avez aussi parlé de la situation géologique du Cap Haïtien. C'est une ville d'une forte sismicité et vous avez relaté dans votre livre les nombreux cas de séisme que la ville a malheureusement connu. 1842, pour ne citer que ce cas-là, la ville a carrément été détruite, ainsi que des villes avoisinantes, telles Ouanaminthe, Port-de-Paix, etc. Il y avait même eu un tsunami, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire, ça apprend beaucoup de choses. Mais j'ai envie de vous dire, ingénieur Pérard, compte tenu de la situation sismique de la ville du Cap, est-ce que vous qui connaissez bien cette ville, sa géographie, sa géologie, est-ce que vous pensez, ingénieur Perra, que le Cap-Haïtien peut disparaître à un certain moment par rapport à sa situation sismologique?
Le tremblement de terre de 1842 a détruit la moitié de la ville. La moitié de la population du Cap a péri ce jour-là. Et un tsunami a envahi, a inondé la moitié de la superficie du Cap Haïtien. Donc le risque est grand, puisque les plaques tectoniques sont les mêmes et ça fait environ pas loin de 200 ans depuis qu'on a eu ce tremblement de terre. Donc ça peut péter d'un jour à l'autre. Donc le risque est grand. C'est pour ça que je sonne la sonnette d'alarme de manière qu'on fasse attention, de manière pour qu'on puisse éviter une nouvelle hécatombe au Cap-Haïtien.
C'est là que votre travail, et à travers ce livre, est une véritable lanterne qui puisse vraiment donner des pistes aux décideurs pour savoir comment on peut protéger cette ville à forte importance patrimoniale. Et ingénieur Perra, et restons au cœur de ce livre, et Henri Christophe, quelle figure de militaire, d'homme d'État et pour le Cap-Haïtien, est-ce que, compte tenu de sa carrière et de ses hauts faits d'armes, est-ce que vous seriez prêt à soutenir que Henri Christophe est le personnage historique le plus important que la ville du Cap ait jamais produit?
Les gens du Cap se réclament carrément christophiens parce que ils sont vraiment très fiers du développement que Christophe avait donné à la ville et à la région du Nord en général. Donc, pour les Capois, Christophe, c'est le personnage par excellence.
Je voudrais qu'on rétropédale un peu, ingénieur Perrard, qu'on puisse revoir, ressaisir et pour bien expliquer aux gens et ce qui s'est passé au Cap exactement en 1842. Nous avons beaucoup d'auditrices, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de jeunes qui nous écoutent au Cap-Haïtien. C'est intéressant de leur donner ça comme élément de culture générale et comme culture globalement sur la ville, comme connaissance et de la sismicité de la ville. Dites à ce public, ingénieur Perrard, qui vous écoute dans tout le département du Nord et particulièrement au Cap, quels furent les dégâts du tremblement de terre de 1842? Qu'est-ce qui s'est passé? Quid de ce tremblement de terre qui a duré pendant 6 minutes?
Ce tremblement de terre qui a duré environ 6 minutes d'horloge a détruit la moitié des maisons du Cap-Haïtien, la moitié de la population qui était d'environ 10 000 personnes en 1842, 5 000 habitants du Cap ont péri sous les décombres lors de ce tremblement de terre. Et maintenant, il faut garder en mémoire qu'il y a eu un tsunami qui a inondé la moitié, un peu plus de la moitié de la ville. C'est pour cela qu'on a dû abandonner la ville pendant un an, par crainte d'une épidémie de maladie à la suite de ce tremblement de terre. Il faut aussi garder en mémoire que la ville n'a été déblayée qu'un an après avec la modique somme de 50 000 gouttes. En tout cas, on a abandonné la ville du Cap pendant un an et la ville est restée vraiment à l'abandon.
Bon, voici un élément d'information extrêmement important et que vous donnez là. C'est pas connu que la ville du Cap Haïtien a été abandonnée pendant pratiquement une année et que la ville a été déblayée. Il faut reprendre ces informations. Un an après, faut se dire que là, c'était terrible. Et il me semble que politiquement, le président Boyer, à l'époque, était très content du malheur de la ville, se disant « Ah, ces conspirateurs, enfin, j'ai eu une pause avec eux. »
Oui, bon, le Cap a un passé très turbulent. Donc, c'est pas par hasard que c'est au Cap que se sont déroulés les faits les plus importants de l'histoire du pays. Donc, Boyer, sachant le niveau de turbulence de la population du Cap, lorsqu'est survenu le tremblement de terre, il a dit, bon, définitivement, il aura un répit avec ses fauteurs de troubles. Donc c'est comme ça qu'il a qualifié l'événement qui s'est passé au Cap lors du tremblement de terre de 1842.
Vous accordez beaucoup de place à la vitalité de la culture capoise, la vie culturelle, artistique, pour être beaucoup plus précis. Vous parlez des peintres qui ont marqué la ville et bien entendu Philomé Aubin est au cœur, mais vraiment au cœur de ce chapitre. Nous retournons encore à cette tâche pédagogique, ingénieur Pérard, qui est la nôtre pour ce dimanche à Causer Kilti. Comment pouvez-vous présenter à un jeune caprois qui jusque-là n'avait jamais entendu ce nom, Philomé Aubin? Qui est-il ce Philomé Aubin? Quelle est son importance dans l'histoire de l'art de la ville du Cap et d'Haïti en général?
Philomé Aubin, qui est mort maintenant, c'était un peintre naïf qui a vécu au Cap haïtien du côté de l'école professionnelle à la rue Zéro. Philomé Aubin a été célèbre à tel point que Jacqueline Kennedy, qui est devenue Jacqueline Onassis, a fait le déplacement jusqu'au Cap haïtien pour venir acheter des toiles de Philomé Aubin. Donc, malgré que Philomé Aubin ne sera plus là, l'école capoise de peinture existe encore et la peinture capoise continue à rayonner et à franchir les océans et pour promouvoir la culture capoise.
Philomé Aubin, grand nom de la peinture du Cap, ça c'est un élément patrimonial majeur qu'il faut toujours avoir en tête et toujours considérer. Et dans ce livre, vous parlez aussi, ingénieur Pérard, des pétroglyphes taïnos, vous parlez des peintures corporelles et de l'art taïno en général, vous parlez des ornements qu'il y avait, vous parlez des travaux faits sur des roches basaltiques par des taïnos, quoi. Dites-nous, aujourd'hui, comment peut-on se rendre compte de l'héritage taïno dans la ville du Cap?
L'héritage taïno, plutôt un héritage de la région du Nord, qui n'est pas spécifique à la seule ville du Cap haïtien. Et pour se rendre compte de cet héritage taïno, on peut, par exemple, aller visiter les grottes du Dondon, donc la voûte à Menguet, où il y a quand même pas mal de sculptures sur la roche basaltique. Mais on peut aussi aller à Sainte-Suzanne pour aller voir les roches tempées dans une rivière du côté de Sainte-Suzanne. On peut aussi aller du côté de Kankok, dans la rivière de Kankok, pour voir aussi des inscriptions, pour voir des sculptures que les Indiens taïnos avaient fait de ce côté-là. Donc du côté du Limbé, mais particulièrement à Kankok. Mais aussi, il faut souligner les travaux qu'a fait l'archéologue Hodges du côté du Puerto Real, qui était la première ville, disons, indienne qu'on a fouillé du côté de Limonade et on a trouvé pas mal d'enseignements sur l'art taïno et on a exhumé pas mal d'artefacts et beaucoup de pétroglyphes qui sont exposés dans le musée Guayaba au Lébé.
Et allons maintenant, ingénieur Pérard, dans un aspect de la ville que vous maîtrisez le mieux, étant donné votre chapeau d'ingénieur. Comment pouvez-vous globalement présenter à un étranger, un public totalement étranger au Cap, comment vous pouvez camper pour ce public-là le bâti capois? Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce bâti? Quelles sont les forces de ce bâti, ses faiblesses? Et comment le bâti capois a évolué au cours des ans jusqu'à pratiquement aujourd'hui où j'imagine que nous avons un style tout à fait nouveau, j'imagine que nous avons quelque chose de tout à fait neuf, ou c'est l'inverse, où il y a toujours des vestiges du bâti historique capois. Mais pour en revenir au nœud de la question, c'est comment l'ingénieur Pérard peut globalement présenter le bâti caprois?
Bon, si on doit parler du cap haïtien, il faut faire un distinguo entre le centre historique de cap haïtien et les quartiers périphériques de cap haïtien. Et même là encore, dans le centre historique, il y a des quartiers qui ont été bien préservés et il y en a d'autres qui ont été un petit peu dénaturés. Ceci pour dire que l'architecture du Cap, si je parle de ce qui a été conservé, est une architecture néoclassique, c'est-à-dire une architecture qui respecte des règles bien précises et qui est relativement dépouillé, mais qui a des ornements tels que des moulures, des entablements, qui a des corniches, qui a des arcs, qui a toute une série de... qui a tout un vocabulaire particulier. Maintenant, la spécificité, si on veut parler au cap de, du cap de manière spécifique, le cap, contrairement aux autres villes du pays, est une ville où les maisons sont bâties de plein pied sur la rue, alors que dans les autres régions du pays, il y a devant les maisons une galerie qui décore les maisons mais qui sont placées en avant des maisons. Alors que au Cap-Haïtien, c'était l'inverse, les Capois vivaient particulièrement dans la cour, en toute intimité. C'est pour ça que dans l'architecture du Cap, les galeries sont placées à l'arrière des maisons côté cour. Et ça fait vraiment une distinction entre l'architecture du Cap et l'architecture d'une ville comme Jacmel ou bien comme Jérémie ou bien pas comme les anciennes maisons de Port-au-Prince. Et une autre spécificité, les maisons, par exemple à Port-au-Prince, c'est les maisons anciennes, si on prend les gingerbread, ils sont en retrait par rapport à la rue, alors que au Cap, les maisons sont bâties carrément, surtout dans le centre historique, de plein pied sur la rue. Et ça, c'est une particularité du Cap.
À l'intérieur de ces bâtiments, les Capois de toutes les générations se sustentent. J'en ai dit en créole, la sac vide pas campé. Et le Cap-Haïtien est connu pour sa cassave. Le Cap-Haïtien est connu pour son acra de pois nègre, bien causé pain doux. Bon, là, je ne pas dit tout, mais je suis en train de vous demander, ingénieur Pérard, maintenant, de faire un saut dans la cuisine du Cap. Faites-nous goûter à cette cuisine. Et qu'est-ce qui fait la bonté de cette cuisine? Qu'est-ce qui fait sa grâce? Qu'est-ce qui fait sa réussite?
Bien que la cuisine capoise fait partie intégralement de la cuisine haïtienne, cette cuisine capoise a des spécificités qui en font une terre de saveurs et de traditions culinaires. Par exemple, la cassave capoise a ses spécificités et ne ressemble à la cassave d'aucun autre endroit du pays. La cassave capoise la cassave sucrée du Cap est très prisée de tous les gens du pays et je me fais littéralement harceler chaque fois que je vais au Cap, tellement il y a de gens qui me demandent de ramener de la cassave du Cap. Le mamba du Cap aussi, est aussi à sa touche particulière. Le Cap est le seul endroit du pays où on n'ajoute pas d'huile de cuisine dans la préparation du mamba. Dans le temps, on utilisait au Cap un gros mortier, ce qu'on appelle en Haïti un pilon, qui était revêtu à l'intérieur par une plaque de tôle. C'est dans ce pilon-là qu'on pilait le mamba et pour en faire ressortir l'huile de l'arachide et qui donne au mamba caprois toute sa finesse. Ensuite, le Cap est le seul endroit du pays où l'on consomme la noix de cajou toutes les sauces. Donc on verra le capois manger son poulet avec de la noix de cajou, sa pintade avec de la noix de cajou, préparer son poisson avec de la noix de cajou, préparer son lambi avec de la noix de cajou, et préparer son ragoût de porc avec la noix de cajou. Le capois peut faire un bouillon de pois où il ajoute de la noix de cajou. Donc il y a beaucoup de touches particulières qui font de la cuisine capoise une cuisine spécial. Par exemple, le griot capois ne ressemble pas au griot des autres endroits du pays, parce que au Cap, c'est le seul endroit du pays où lorsqu'on prépare le griot, on fait bouillir la viande jusqu'à ce qu'elle rende son huile et on fait frire le griot dans l'huile qui provient de la viande même. C'est en adéquation avec le proverbe créole qui dit graisse cochon, cuite cochon. Le jour où vous aurez goûté au griot du Cap, vous ne mangerez plus jamais de griot en dehors du Cap.
Alors là, le griot du Cap a été bien vendu hein, par vos soins, ingénieur Pérage. Mon yodi a de l'eau à courir dans la bouche. Moi, il faut me dire que un bol griot au Cap là avec banane pesée, moi, n'est-ce pas? Après ça, mon petit dessert avec un doukou nous. Parce que au Cap, nous gain ça tout comme spécificité dans la cuisine noire. Vous avez beaucoup de desserts qui typiquement est capois. Mais ingénieur Perra, nous n'avons pas approché de faire un entretien, mais ce serait bizarre quand même de faire une émission sur un livre fait sur le Cap. Nous pas parlé de particularités créoles qui gagnent au Cap là. C'est vrai que les est à la limite, malheureusement, certaines fois, on sujet de dérision, de bail comme ça, un égo cap, de bail comme ça. Mais heureusement que ça a commencé vraiment à changer, quoi. On commence à comprendre que le cap haïtien gagné, on créole à pas. Et dis-nous, on parole sous créole au cap là, et frère homme.
bon, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les régions du pays n'ont pas été peuplées par les mêmes ethnies. C'est ce qui explique le Cap à son créole particulier. Maintenant, si on veut faire un tableau rapide du parler capois, le premier truc qu'on devra dire, c'est que dans le créole capois, il y a beaucoup plus d'articles que dans le créole des autres régions du pays. Par exemple, le capois va dire « moi saute, bon, là ». Place là, pendant que les gens des autres pays vont dire moi saute bon place là. Le capois va dire moi saute bon la rivière là, pendant que les gens des autres régions du pays vont dire moi saute bon rivière. Ça, c'est un premier aspect du problème. Deuxièmement, le créole capois, pendant que dans les autres régions du pays, on a supprimé les airs à la fin des mots, le Port-au-Prince va dire jolé, le capois va dire jolé. Donc, une autre différence dans le créole capois. Mais maintenant, si on veut reconnaître un capois, on n'a qu'à demander à la personne de prononcer, par exemple, le mot septant. Le Port-au-Prince va dire septant et le capois va dire septant. Parce que, comme on dit en français, devant une consonne dure, le E est un E ouvert. Et donc, au Cap haïtien, le E reste un E ouvert devant une consonne dure. Donc, c'est autant de spécificités qu'il y a dans le créole capois qui est différent des autres régions du pays. Et en particulier, lorsque le capois va dire « frère en moins », donc « frère en », pendant que les gens des autres régions vont dire frère moins, mais le capois va dire frère en moins ou bien sœur en moins. Donc comme ça, quand il fait une contraction, il va dire sœur en, frère en, parce que il y a le en moins, à moins chaque fois qui est pris en compte. Donc j'espère que ceci est clair suffisamment sur les différences qu'il y a entre le parler capois et le parler des autres régions du pays.
Ingénieur Pérard, nous sommes à la fin de cet entretien, mais il faut absolument se laisser en musique parce que la musique a une place considérable dans l'histoire du Cap haïtien. On s'est parlé de septante à l'heure et dis-nous globalement cette musique capoise. Et comment, ou même personnellement, comme intellectuel, comme chercheur, comment musique capoise la bercé-o, touché-o, et qui musicien capois, là nous sommes dans vraiment tes chambres intérieures, ingénieur Pérard, comment la musique capoise, et dans ta jeunesse, t'as toujours touché, et qui musicien capois, ou bien qui groupe capois, ou gagné dans fond cœur ou
comme pour la peinture et la cuisine capoise, la musique capoise a sa spécificité. C'est vrai que Esseptan et Tropicana jouent essentiellement du compas, mais Esseptan et Tropicana ne jouent pas le compas direct. Ils ont tous les deux. Ces deux orchestres ont fait une adaptation du compas direct. C'est ainsi que le Tropicana joue un style de compas qu'ils appellent le compas roussi. Et Septan a fait une adaptation du compas direct qu'on appelle le rythme boule de feu. De toute manière, ces différences que les musiciens capois ont apportées au compas donnent une saveur spécifique à la musique capoise. Oui, donne une saveur spécifique à la musique capoise. Et c'est peut-être cela qui explique que la musique capoise a conquis une bonne partie du pays. De toute manière, si on peut citer des musiciens célèbres, on peut citer Ulrich Pierre-Louis, l'ancien maestro décédé maintenant de Septentrional, mais on peut citer aussi le nom de Charlemagne Pierre Noël, l'ancien maestro de Tropicana, mais il est passé dans l'au-delà maintenant. De toute manière, et quand on veut danser une bonne soirée, on fait appel à Septan ou bien à Tropicana d'Haïti.
Ingénieur Perra, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que votre livre est disponible en librairie, les deux principales librairies de la place. Histoire de la ville du Cap-Haïtien, 350 ans d'histoire. C'est un travail magnifique que vous avez réalisé. Nous allons se laisser en musique avec justement un groupe typique du Cap-Haïtien, Septentrional. C'est pas moins celle qui pas bon, gardons bonheur. L'occasion pour nous aussi de remercier les partenaires de Cause Kilti, l'ambassade de France en Haïti, l'ambassade de Suisse en Haïti, l'Institut français d'Haïti, la Focale, l'OIF. Merci à James Guillou qui assure la réalisation du magazine. Vous pouvez toujours podcaster cette émission en allant sur le site de RFI, www.rfi.fr. Partagez, écoutez, restez positif, ouvert d'esprit, gardez le bonheur. Et si vous m'appelez D'Angelo Néard, écoutez, je ne me fâcherai pas. Bonheur, Septentrional, vive le Cap-Haïtien.
Gap qui jamais souffri, tête oui bien pour le bâti. Tout ça c'est pour chérie. Tu as gâché au moins un menti. Allons bagarre, ça c'est le même. C'est chaque jour qui est plein. Ou toujours à petit. Ou bagarre manquer, ou t'as bloqué. Va suspendre mes prisons. Ou pas pour te pécher. Chérie, moi j'ai une raison qui fait que tu es ma soupir. Des vies fait quoi dans où l'amour n'a qu'un défaut. Vos mêmes amis m'a critiqué. Ou j'en vois qui me dit. Ou moi ou même celle qui t'es qui sous la terre. On y a oublié dans le faire. Jamais. Jodi a man subi ou te fin fè pwen an ou la moun an kem jè ou vèm im zan im ap kritike ou jan wap imilim ou mwen ou mèm zan ki te gen sou la tè jodi a ou ignore. C'est pas moi seul qui va mourir, ou yon moun pa ka vive avec. Dim qui est sous bras trouvé, moun qui pa fait a pas existé. Yo gagne une vie que pa ka comblé, c'est pas yon raison pour voyer me jeter. On est la vie à un revers, donc oui pour la pluie ou tomber la rivière.
Moi ça c'est moi qui vous
résiste,
pour nous pas ta vie. Tout temps, essayez ça, pas j'en marche.
Je
ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
bras.